rencontrer des Mbimbaï au Kata oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre. La signature d'un texte sanctionnant la fin des pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23 est ajournée. Le point de divergence à la base de ce report est l'intitulé du document à signer. Accord, conclusion, déclaration, aucun de ces termes n'a jusque-là mis les deux parties d'accord. Quel regard portez-vous sur l'intitulé de ce document? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou encore au 081 890 49 69. Titi Poutou, Nadine Foula sont à la réalisation de cette émission. Erite Sidiakala est à la mise en onde. J.R. Lugembo coordonne et présente cette émission supervisée par Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi et merci également à Alain Goy qui assure la mise en ordre de cette émission à la place d'Héritier. Merci Diakala. Nous avons dans ce studio Dominique Vert qui est analyste politique belge. Alors, il est avec nous dans ce studio pour commenter cette actualité. Bonjour Dominique.
Bonjour J.R. et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Accord, conclusion, déclaration, c'est quoi la différence?
Ah ben je pense que évidemment la différence est majeure dans le sens où du côté du M23 ils exigent évidemment qu'il y ait un accord de Kampala, c'est-à-dire que cela veut dire que même s'il y a un vaincu et des vainqueurs dans leur tête, bien entendu, ça veut dire que il y a un accord de paix et que donc ils sont toujours fréquentables et en même temps ils existent toujours, que ce soit politiquement puisque militairement on sait bien qu'ils ont été en tout cas sur le territoire congolais défait. Alors on a entendu qu'il y a pas mal d'hommes du M23 qui sont réfugiés en Ouganda et sans doute aussi au Rwanda. Mais bon, voilà, en attendant, de leur côté, ils voulaient un accord pour démontrer que la structure M23 existe et a signé, en effet, cet accord avec le gouvernement congolais. Alors, du côté congolais, il est tout à fait clair et évident qu'ils ne voulaient pas entendre parler d'un accord, puisque pour eux, le M23 est défait, n'existe plus. Donc il n'y a pas d'accord à signer avec le M23, puisqu'il n'existe plus, qu'ils ont été vaincus et défaits militairement, mais aussi dans la tête du gouvernement congolais politiquement. Et puis alors, il y a une dissension au sein du M23 qui dit bah, peut-être que pour trouver un consensus, on pourrait parler de conclusion. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement congolais reste sur ses positions, me semble-t-il, et ne commence pas à jouer sur le vocabulaire voir si on parle de conclusion, d'accord ou de déclaration. Moi, je pense que le gouvernement congolais a raison de rester sur cette stratégie qui consiste à dire c'est une déclaration de Kampala point qui démontre que il y a en effet un vaincu et un vainqueur, le vainqueur étant la République démocratique du Congo légale.
Voilà, alors aujourd'hui, un blocage qui peut justement avoir des conséquences. Alors si oui, lequel?
Oui, évidemment, il y a une conséquence directe de toute façon. C'est bien entendu, même si on dit que les affaires sont séparées, mais c'est bien entendu l'accouchement difficile du gouvernement de cohésion nationale. Certains disent que ben, le document de Kampala prévoyait éventuellement justement la réintégration politique de certains éléments du M23 qui auraient été un peu moins condamnables dans leurs exactions des 11 derniers mois. Il est évident que de toute façon, que ce soit le cas ou pas dans le document, puisqu'on n'a pas le document.
Nous
ne connaissons pas le contenu, à part M. Chimanda qui ne va pas au Parlement pour en parler en plus, alors qu'il y était invité hier. Et donc oui, la première conséquence, c'est de toute façon le fait qu'actuellement, nous n'avons toujours pas de Premier ministre, de formateur, d'informateur, en tout cas, une personne qui soit censée être habilitée pour construire et mettre en place la prochaine équipe gouvernementale. Deuxième conséquences, c'est quand même au niveau international par rapport au Conseil de sécurité et évidemment aux pays qui sont partie prenante de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, que ce soit ceux qui sont soupçonnés d'avoir soutenu le M23, donc les pays voisins, mais que ce soit aussi les autres pays, on a senti quand même à Pretoria, lors de la dernière rencontre des chefs d'État de la CIRGL et de la SADC, de l'Afrique australe, on a quand même entendu à Pretoria certains chefs d'État africains montrer une forme d'impatience devant la longévité de cette crise à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est vrai que ça peut avoir des conséquences sur l'image de la République démocratique du Congo, que ce soit par rapport à ses partenaires africains, mais que ce soit aussi par rapport aux autres partenaires, qu'ils soient occidentaux, orientaux ou américains. Et donc, je pense qu'il faut quand même qu'on atterrisse assez vite et que, d'une manière ou d'une autre, on ferme Kampala. Moi, je pense que c'est un des meilleurs signes qu'on pourrait envoyer aux partenaires, en tout cas, de la République démocratique du Congo, c'est d'arrêter de payer les PRDM et les chambres d'hôtel, que ce soit pour la délégation gouvernementale ou que ce soit pour la délégation du 23. Fermer Kampala et en terminer une bonne fois pour toutes avec le M23 et engager assez rapidement, évidemment, alors une réelle négociation avec les deux pays qui sont aujourd'hui encore partie prenante dans ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo, à savoir l'Ouganda et le Rwanda, et qu'il y ait alors là, sous l'égide de la communauté internationale, peut-être une vraie négociation qui, elle, pourrait aboutir à un accord et pas à une déclaration, qui serait un accord politique clair et net démontrant que l'Ouganda et le Rwanda arrêtent fermement et de manière durable de vouloir lorgner sur le territoire de l'est de la République démocratique du Congo.
Voilà, nous allons prendre le premier auditeur, mais laissez-nous quand même, disons, vous poser une question de précision. Aujourd'hui, c'est vrai, nous nous trouvons en face d'un vaincu et un vainqueur. Et ça, sur le plan militaire, c'est clair, on ne peut pas nier cette évidence. Mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire le vainqueur doit normalement imposer un document. Donc c'est à ce niveau que tout le monde donne raison au gouvernement congolais.
Oui, je pense que vous avez bien dit qu'il y avait un vaincu militaire, mais je pense qu'il est aussi un vaincu politique et social, dans le sens où le M23, on l'a vu, n'a jamais pu démontrer qu'il avait une valeur ajoutée et une légitimité auprès de la population dans les zones qu'il contrôlait. Et puis surtout, on a vu depuis deux jours, ou même depuis une petite semaine, une unanimité de toute la classe politique, mais pas uniquement de tous les corps constitués de la République démocratique du Congo, tous unis derrière la position du gouvernement, derrière cette victoire des forces armées de la République démocratique du Congo, et derrière donc la victoire finalement du gouvernement qui est actuellement en affaire courante, le gouvernement de M. Matata. C'est aussi un peu la victoire de M. Matata, cette victoire contre le M23.
081-890-4969 ou encore le 081-890-6315.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Nous prenons le premier auditeur qui est en ligne depuis Mbanzangungu dans le Bas-Congo. Claude, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour JR, bonjour aussi à l'invité et aux auditeurs de Radio Kabi.
Voilà, la signature d'un texte sanctionnant la fin des pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et les M23. Vous êtes informé que cela a été ajourné. Les points de divergence à la base de ce report est l'intitulé du document à signer. D'aucuns parlent d'accord, d'autres conclusions, d'autres encore une déclaration. Alors aucun de ces termes n'a jusque-là mis les deux parties d'accord. Alors pour vous, quel regard portez-vous sur l'intitulé de ces documents?
Merci bien, je vais pouvoir donner effectivement mon regard, mais je voudrais dans un premier temps exprimer mes remerciements à cette occasion au FARDC et puis à la MONUSCO, notamment à M. Martin Kobler, qui communique bien et qui vraiment donne l'impression de communiquer le cœur sur la langue et le fait souvent. Et ceci permet à la population d'avoir un autre regard sur la MONUSCO. Ce que vous appelez belligérance entre deux parties à Kampala, langage qui ne me plaît pas, est une mise en évidence de la position ambiguë de la communauté internationale, notamment de l'envoyé spécial des États-Unis. Pour moi, que l'on appelle ça conclusion, déclaration, ou accord, nous ne devons pas signer un document qui va permettre une infiltration nouvelle sans combat des rebelles. S'ils doivent se réorganiser dans les pays où ils ont trouvé refuge, alors qu'ils le fassent et que le monde entier puisse voir l'évidence même de l'appui de ces pays qui ont signé un accord à Addis Abeba. Et souvenez-vous, qu'Addis Abeba est venu comment?
Oui, Claude, n'oubliez pas que jusque-là, personne ne connaît le contenu, que ce soit de cet accord de paix qu'exige le M23 ou encore la déclaration, le texte proposé par le gouvernement congolais. Personne ne connaît le contenu, jusque-là.
Oui, c'est vrai, personne ne connaît le contenu. D'ailleurs, ma question sera autour de cet aspect-là. J'étais en train de pouvoir faire une analyse en disant que quand la MONUSCO a démontré par ses experts qu'effectivement il y avait l'appui du Rwanda et de l'Ouganda, ceux-ci ont appuyé le M23 qui avait pris Goma. Et au point que le président ougandais a dénigré les casques bleus, une institution où lui aussi peut envoyer des militaires, il a dénigré en les traitant des touristes en tenue militaire venus au Congo. Vous voyez, si le vainqueur était M23, aujourd'hui, que serait la MONUSCO? Que serait devenue la communauté internationale avec une brigade spéciale et une armée régulière contre une rébellion? Oui. Donc, c'est pour moi l'occasion de poser à votre invité cette question. Quel est l'avantage du gouvernement de pouvoir avoir un accord non connu des députés, non connu de la population, ou une déclaration non connue du public, mais fait à son nom? Quel est l'avantage du gouvernement dans ce sens-là? Parce que vous avez vu comment nous avons soutenu nos phases d'essai. Pour qui d'ailleurs je dis merci. Donc, je voudrais savoir vraiment quel est l'avantage pour nous d'avoir un accord non connu de nous, mais pour lequel on signe un autre nom. Et demain, on va encore nous mobiliser. Quand cet accord sera signé mal, ou bien que cette déclaration sera mal, voilà pourquoi j'ai dit que pour moi, l'intitulé, la sémantique importe peu. L'essentiel, c'est que cette déclaration-là ne comporte pas une clause qui puisse permettre une infiltration sans combat. L'Ouganda a parlé pour les rebelles, demandant si nous ne les recevons pas, au HCR de les recevoir. Alors qu'il avait dénigré notre armée et il avait dénigré même l'armée des casques bleus. C'est ainsi que j'ai voulu vraiment participer avec passion sur cette question. Question de faire voir quelle est la position de la population sur ce fait. Je vous remercie.
Merci beaucoup Claude d'avoir appelé de Mpanzangungu. Pour vous, donc la sémantique porte peu. Hein, donc vous n'avez même pas de souci de ce côté-là, que ce soit l'accord, conclusion ou déclaration. Mais pourvu que dans cet accord ou conclusion, accord, déclaration, qu'il n'y ait pas des clauses qui comporteraient un corps d'État nous amenant davantage vers la guerre ou à nouveau vers la guerre. Donc il faudrait qu'on soit vraiment vigilant de ces côtés-là. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour JR.
Vous avez la parole Maurice.
JR, moi je dirais ceci. Est-ce que le statut d'abord, commençons même par le statut du M23. Le statut du M23, nous savons que c'est une force négative. Mais que cette même communauté internationale qui a qualifié le M23 force négative, qui soumet cette force négative à une négociation sans fin avec un gouvernement légitime de la RDC. Alors, c'est là d'abord, il y a quand même une certaine ambivalence même dans le langage de cette communauté internationale. Alors, quant à la, comme disait mon prédécesseur de tout à l'heure, que ici, nous n'avons même pas besoin d'un débat autour de la sémantique. Mais moi, je voudrais savoir ceci. Comme l'a dit notre invité, tout au départ, qu'il y a eu une conférence, un sommet conjoint, SADC, CIRGEL à Pretoria. D'après nos informations, dans cette réunion, M. Joseph Kabila a donné son accord de principe qu'il devrait signer cet accord d'été dans les jours, dans les 5 jours ou dans une semaine. Et il avait demandé qu'on lui accorde quel 5 jours pour qu'il puisse préparer l'opinion publique nationale. Alors, ça je l'ai appris par M. Dictima sur, je crois, RFI, qu'il a déclaré qu'il était convenu qu'il devait, les M23 devaient faire une déclaration selon laquelle qu'il mettait fin à toute opération militaire et qu'il proclamait même la fin de sa rébellion. Et du côté congolais, il devait prendre acte et dans les jours à venir, on devait signer un accord de paix. Voilà ce qu'on savait. Mais aujourd'hui, quand on nous amène, on nous dit que le Congo n'est pas pour un accord de paix, pour la signature d'un accord de paix, mais plutôt pour une simple déclaration. C'est là que je vous dis que l'invité, il est quand même bien informé, bien outillé par rapport à cette question-là. Il nous dit, ben, fait, il nous livre un peu les libellés de ces documents, les 11 points. Est-ce que le Congo est pour, est contre seulement la thématique, donc l'intitulé, ou il est contre les 11 points qui ont été proposés ou imposés par cette communauté internationale à travers la facilitation ougandaise? Ça, c'est ma première préoccupation.
Voilà, et la deuxième?
Et ma deuxième préoccupation, moi je voudrais dire ceci. Si réellement la guerre a été gagnée par et par BC, moi je ne pense pas, je ne vois pour quelles raisons on doit aller en négociation. Parce que nous savons bien que les États-Unis d'Amérique, par exemple, prenons les États-Unis d'Amérique, qui va vaincre par exemple l'Al-Qaïda en Afghanistan, et qui va maintenant, en vainquant cette force-là négative, plutôt les talibans, on va maintenant encore en négociation avec les talibans. C'est vraiment, c'est non-sens, c'est aberrant. Vous comprenez? Donc, nous devons savoir réellement qui a gagné cette guerre. Cette guerre-là, qui l'a gagnée réellement. On ne puisse pas nous mettre faire la poudre aux yeux, qu'on puisse nous dire exactement que cette guerre a été proclamée, mise fin par ceux, les vrais, donc ces gens-là.
Voilà, merci beaucoup.
Qui avait sifflé les devis ou les commencements de cette guerre, et c'est cette même communauté internationale qui siffle
la fin
de cette
merci
guerre
beaucoup.
Au prix des négociations qui est imposée par les 11 points-là.
Merci donc, beaucoup Maurice, merci beaucoup Maurice. Nous n'allons pas trop rester sur les 11 points parce que personne ne connaît le contenu et notre invité l'a dit tout à l'heure. Seul peut-être le ministre des Affaires étrangères qui en fait est le chef de la délégation de nos envoyés, ceux qui sont dans la partie de la RDC et qui se trouve en négociation, qui pourrait déballer ou expliquer au commun des mortels le tenant et les aboutissants ou encore les contenus de ces documents. Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé de Kinshasa. Guillaume, vous êtes à Magui, dans la province orientale. Bonjour Guillaume.
Bonjour JR, bonjour à toutes les auditeurs de la radio Kati dans 145 territoires de la République démocratique du Congo.
Voilà Guillaume, vous avez suivi tout à l'heure Claude qui a commencé d'abord par remercier nos FRDC et en plus qui a évoqué des préoccupations très pertinentes entre autres en posant la question sur l'avantage que la RDC va tirer en signant par exemple un document qui porterait l'intitulé accord de paix, et Maurice qui a insisté également sur le vrai vainqueur de la guerre et qui devrait en principe imposer l'intitulé du document. Vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
En tout cas, JR, nous sommes tous patriotes congolais. Nous aimons notre pays, nous luttons notre pays. C'est pour cela que nous perdons l'État quand les autres pensent. JR, les amis d'hier, les ennemis d'hier ne sont pas les amis d'aujourd'hui. Là, en tout cas, nous devrons hésiter. Je répète, en disant encore, les amis d'hier ne peuvent pas être aussi les ennemis d'aujourd'hui. Comme je dis, les ennemis d'hier ne sont pas les amis d'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas signer un papier pour avoir une paix précaire. Hier, vous me suivez très bien.
Tout à fait, très bien. Oui, on est ensemble.
Oui, on est ensemble, merci. Je salue la position du gouvernement avec la ceinture mise. Je sais que le gouvernement a mis une ceinture, alors qu'il ne faut pas que cette ceinture-là soit réglée. Donc, avec ça, je salue la position du gouvernement. Vous savez tous, et tout le monde le sait, toutes les races le savent, que ce soit noir, blanc, tout confort, La RDC a connu une panne d'État. Les gens ont tué la démocratie en faisant la guerre. J.R., j'ai une très grande préoccupation et une très grande peur.
Oui, rapidement, rapidement.
Nous avons la peur des mots seulement, c'est-à-dire les mots appelés les mots secrets. Aujourd'hui, on peut refuser à public de ne pas signer que ce soit, comme on n'a pas besoin des mots engagement, déclaration, protocole, convention, tout consort, là c'est bon. Mais j'ai seulement j'ai la peur des mots secrets, parce qu'on peut refuser à public, mais à deux personnes, on peut se retrouver dans un véhicule, on signe un simple papier, que ce soit comme une déclaration, que ce soit comme une vente d'une parcelle, mais c'est une bombe à retardement. Donc moi, hier, je continue, je dis, je suis très inquiet. Pourquoi je suis très inquiet, hier, excusez-moi bien, il faut que tous les auditeurs de la DOCATI me comprennent, il faut que tous les Congolais me comprennent, parce que je parle pour le Congo, je ne parle pas pour moi seul. Aujourd'hui,
oui, rapidement, on n'a pas assez de temps, Guillaume, parce qu'il ne faut, faut pas prendre deux minutes en un seul, Guillaume.
Oui.
Vous avez 30 secondes pour conclure votre intervention.
Oui, JR, 30 secondes là, c'est beaucoup. Peut-être que je peux conclure aussi, je vais conclure dans 20 minutes. Aujourd'hui,
dans 20 minutes,
les gens de toi sont bien connus à Kampala.
Et
là, c'est une menace proche, avec les plats peut-être B, C, D. Donc, il faut peut-être que ces gens-là peuvent changer leur stratégie à tout le temps. Vous savez, car tous les hommes d'ordre de cet événement-là sont libres et tous les hommes d'ordre de cet événement-là sont vivants. Aujourd'hui, le Rwanda est sur les pieds de la guerre, sur les pieds de la guerre en RDC à travers plusieurs variétés de milices potentielles. Au 1v3, tout consort.
Voilà, merci.
Je voudrais donner deux propositions seulement.
Oui, allez-y.
Je vais permettre 5 secondes.
Oui, 5 secondes. Alors, 5 secondes. Si vous pouvez, voilà, donnez vos propositions.
Je résume à 4 secondes.
Ok,
allez-y. Donc, aujourd'hui, si la paix passe par la guerre, il faut imposer la guerre.
Mm-hmm.
Si la guerre qui va donner une identification pour la Congolaise, donc il faut faire une guerre pour donner une identification congolaise. Et ensuite, il faut avoir une philosophie de la défense. J.R., en tout cas, je remercie, je donne le temps aux autres.
Merci beaucoup, parce que vous avez respecté les 4 secondes. Nous allons vous donner à côté la parole également à celui-là qui vient de nous rejoindre, hein, Dr. Richard, qui est à Kinshasa. Dr. Richard, bonjour.
Bonjour, J.R., bonjour à notre invité, bonjour aux Congolais, et puis nos condoléances à des milliers de femmes violées à l'Est à cause de M23.
Voilà, vous avez la parole, Dr. Richard.
Merci. Alors, on se base sur l'intitulé de ce qui sera signé.
Mmh.
Accord ou quoi? Pour moi, on ne peut pas signer un accord. On doit signer un papier de constat de fin de guerre. Et puis, une question se vient dans notre bouche. Ces gens-là se sont retrouvés dans AFDEL. Ils continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui. Qui est le fondateur de AFDEL? Les missions de l'AFDEL, c'était quoi? Il apparaît 3 agendas. Le premier, celui de Mouzé, il est mort. Même les autorités congolaises qui l'ont succédé ne citent même pas son nom dans leur discours. Deuxième agenda, celle de la communauté internationale, dont la Belgique qui a transporté le coltan du sang. Troisième agenda, Rwanda et ses alliés qui veulent dépiécer le Congo. Alors maintenant, signer un accord avec M23 signifie quoi? Ça signifie avaliser les rébellions au Congo. Trouvez ça normal. Pourquoi? Parce que 90% des acteurs politiques aujourd'hui, les acteurs politiques, sont des anciens rebelles. Nous les connaissons. C'est aussi éponger l'ardoise qui reprend noir sur blanc ou blanc sur noir les au moins 6 millions de Congolais tués comme ça. Et la communauté internationale ferme les yeux et parle beaucoup pour
eux. Oui, docteur Richard, il ne faut pas oublier que c'est vrai que la RDC s'est vraiment engagée dans un processus démocratique. Et puis, bon, depuis 90, point de besoin de vous rappeler toutes les étapes qui sont passées. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons eu à organiser des élections. On ne peut pas y revenir. C'est comme pour dire que, voilà, tout commence un peu à changer, un tout petit peu à changer et à bouger, à aller de l'avant. Ben alors, aujourd'hui, c'est vrai, vous parlez de l'accord, de la conclusion de la déclaration, vous, personnellement, vous êtes favorable à quoi?
Je suis favorable au constat de la fin de la guerre, parce que les bandits, on les a mis en déroute, et ils ont tué, violé, dans l'impunité. Il faut qu'on constate, comme on avait constaté au Sri Lanka, la fin des tigres de Tamoul. Il n'y a pas eu d'accord. Les bandits ont été décimés, jetés les uns en prison, etc. Pour le Congo, il faut une ligne dure. Si on n'est pas dur, alors le Congo est déjà vendu.
Merci beaucoup, voilà. Docteur Richard, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous allons nous rendre tout de suite à Bounia, dans la province orientale, avec Emmanuel. Emmanuel, c'est avec vous qu'on va terminer cette première série des auditeurs. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, je vais de la radio, car
voilà, on va vous demander, Emmanuel, de sortir de là où vous êtes, parce que là, vous sortez en très coupé. Je ne sais pas si vous êtes dans une maison et peut-être vous éloignez un peu de là où vous êtes pour permettre à ce que nous ayons une communication très fluide et ça va nous permettre de bien comprendre ce que vous allez dire et aussi faire attention à votre intervention. Emmanuel, vous êtes en ligne. Allô? Voilà, dommage, on ne peut pas continuer avec Emmanuel. 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, Dominique Vert, vous êtes notre invité du jour. C'est vrai, Maurice est intervenu tout à l'heure. Il y a également l'intervention de Guillaume, de Claude, ainsi que docteur Richard. Voilà, comment orientez-vous leurs préoccupations?
Mais moi, je pense que il y a deux préoccupations qui ont été pratiquement relevées par chacun des auditeurs et qui sont pour moi tout à fait pertinentes. La première, c'est le fameux caractère secret actuellement de ce document. Alors, on ne sait même pas de quel document on parle. Il n'a pas de titre, mais au-delà du titre, je pense que le contenu, l'opinion publique congolaise a le droit d'avoir évidemment l'information sur, et vous en premier, bien entendu, vous les journalistes, l'information sur le contenu de ce document, qu'il soit signé ou pas.
Dommage que même les journalistes n'ont pas.
Mais oui, c'est ça.
Personne n'est dans les secrets.
Non. Donc, alors, ça fait beaucoup de spéculation, bien entendu. Puisque, à partir du moment où ce document est secret et en tout cas n'est pas connu, ben on peut imaginer et fantasmer sur le contenu qu'on peut retrouver dans ce document. Y avait-il à un moment la volonté de vouloir intégrer
Je pense que pour la part du gouvernement congolais, c'est clair, ils demandent à ce qu'on puisse constater la fin de la guerre. C'est clair, je crois que
tout à fait.
Un tel intitulé donne déjà accès au contenu.
Exactement la deuxième préoccupation que je voulais relever de vos auditeurs, sur laquelle je suis tout à fait d'accord aussi et qui est pour moi vraiment pertinente, c'est le fait qu'il ne faut pas, il n'y a pas de négociation à avoir, il n'y a pas d'accord de paix à signer avec ces bandits. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ils sont décrédibilisés dans la population des zones qu'ils occupaient, ils sont décrédibilisés par la classe politique congolaise, ils sont décrédibilisés par les acteurs de la société civile, et donc on ne peut même pas dire qu'ils représentent une communauté ou des intérêts d'une communauté, ce sont aujourd'hui avant tout des bandits. Ce sont des bandits qui doivent être traînés devant les tribunaux, et donc il n'y a évidemment pas de raison de signer quoi que ce soit avec eux. Par contre, vos auditeurs ont bien raison lorsqu'ils disent il faut simplement qu'on constate la fin de la guerre, qu'on constate la fin de la guerre, mais avec prudence malgré tout, afin que la reconstitution actuellement en Ouganda des troupes du M23, qui étaient seulement quelques centaines en quittant la RDC, mais qui se retrouvent, paraît-il aujourd'hui, à 1700 personnes ou 1500 personnes en Ouganda, c'est évidemment assez inquiétant, parce que d'où viennent cet afflux de troupes militaires, de groupes rebelles incontrôlés, incontrôlables, comment ont-ils rejoint et grossi les rangs du M23, qui étaient quand même que quelques centaines quand ils étaient en déroute et en débâcle venant de la République démocratique du Congo. Il faut être évidemment très prudent sur le fait que aujourd'hui on les a boutés hors du territoire congolais, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont peut-être tout à fait qu'ils ne sont plus des forces négatives.
Voilà. Avant qu'on revienne encore sur deuxième série des auditeurs et aussi sur quelques préoccupations des auditeurs qui ont parlé dans la première série, nous avons tous lu la déclaration politique d'une partie du personnel du M23 qui, au fait, disons la correspondance de Serge Kambasu-Guévé, qui est le secrétaire permanent, et qui a dit ceci: nous avons ainsi décidé, devant l'histoire et devant notre propre conscience, de soutenir résolument la position émise par le gouvernement de la RDC, qui de toute évidence maîtrise tous les paramètres sociaux et politiques du moment, afin de donner une chance à la paix et de permettre à la communauté internationale qui appuie ce processus de s'atteler sur d'autres questions importantes telles que la traque de toutes les forces négatives étrangères et nationales. Alors que vous inspire cette position d'une partie du M23?
Bon, écoutez, moi je pense que ça montre évidemment ce qui est souvent le cas dans des situations pareilles. Ça montre évidemment qu'il y a dissension à l'intérieur du M23, qu'il y a une aile dure qui voudrait bien rester encore en train d'occuper une partie du territoire congolais, mais malheureusement ce n'est plus
possible. Mais ça ne doit pas les dédouaner de crimes commis.
Mais bien entendu, donc c'est pour ça qu'il faut, au-delà de la dissension qui peut exister à l'intérieur de ce mouvement, moi je pense qu'il faut être très très prudent et faire en sorte que il y ait un tri, mais terriblement strict, un tri terriblement strict, éventuellement de quelques éléments politiques du mouvement du M23 qui n'ont commis aucun crime, qui n'ont commis aucun viol, qui n'ont participé à aucune exaction de pillage, d'occupation, d'enlèvement, de déplacement des populations civiles, et voir si ceux-là font amende honorable et veulent véritablement rentrer dans le circuit de la République démocratique du Congo, qui est légitime. Maintenant, je pense qu'ils seront très peu nombreux et que je ne vois pas vraiment comment le dédouanement par ce document permettrait à tous ceux qui ont commis ces crimes et qui ont commis ces exactions de pouvoir être blanchis et de disparaître dans la nature sur le territoire congolais sans devoir rendre des comptes.
Dadi est à Kinshasa et Panzola, toujours dans la même ville. Dadi, vous êtes avec nous, merci de nous rejoindre. Bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Dadi.
Oui, moi je vais parler sur des petits points. D'abord, concernant les mots qui posent problème,
oui, nous avons
de l'autre...
conclusion, déclaration.
Déclaration, tout ça. Si nous revenons, par exemple, à des considérations purement sémantiques, nous pouvons d'abord dire qu'un accord, c'est un contrat. Et lorsque vous signez un contrat, les deux parties s'obligent l'une envers l'autre. Or, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a plus besoin de signer un quelconque contrat avec les mouvements qualifiés par la communauté internationale d'un mouvement négatif. Et vous le savez, moi, avec amertume, quand je constate que la même communauté internationale, Mary Robinson, la facilitation sous l'égide de l'Ouganda, aujourd'hui propose à ce qu'on puisse signer un accord favorisant la réintégration de ces mouvements du M23. Or, vous savez, quand vous voulez intégrer, comment on peut intégrer quelqu'un qui a tué des gens qui ont commis des crimes? Or, vous savez, lorsqu'un crime se commet sur le plan purement juridique, lorsque le crime est commis par plusieurs personnes, toutes ces personnes-là sont jugées, parce que chacun sera jugé par rapport à ce qu'il a pu apporter. Mais on constate aujourd'hui, même la communauté internationale, même notre gouvernement qui s'est dit, non, voilà, on peut même prendre les uns, nos fils qui n'ont pas violé, qui n'ont pas tué, on peut les réintégrer. Non, tous, ils ont tué, qu'ils soient des Congolais ou pas. Lorsqu'il s'agit bien sûr des Congolais qui sont dans ces mouvements-là, mais ça c'est la haute trahison. Ils ont trahi les pays, ils doivent d'abord être jugés. Et quand vous dites, par exemple, bon, d'ailleurs, moi je félicite notre invité du jour qui a dit il faut carrément mettre barre sur le M23 et songer cette fois-ci à négocier directement avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et les autres pourvu qu'ils nous disent ce qu'ils cherchent réellement sur la République démocratique du Congo. Mmh. Parce qu'on ne comprend pas qu'à chaque fois qu'il y a agression, à chaque fois qu'on signe les accords, c'est toujours le Rwanda, c'est toujours l'Ouganda qui envoient leurs fils pour pouvoir combattre aux côtés des mouvements. Alors moi j'ai dit de ne plus signer les accords. Le gouvernement a signé beaucoup d'accords et à chaque fois qu'on signe les accords, les mêmes rebelles utilisent ces accords-là pour opposer leur point de vue. Alors, point n'est question de signer un quelconque encore, les M23, leur chef militaire ou politique Bissimo a dit que non, les M23 n'existent pas, les M23 n'existent pas. Le gouvernement aujourd'hui n'a plus un interlocuteur à Ouganda qui cesse de dépenser inutilement l'agence de brigade congolaise et les rebelles et la délégation gouvernementale.
Merci beaucoup, Dadi. Vous inquiétez sur cette problématique d'intégration d'une partie de rebelles qui ont été actifs dans ce mouvement M23. Et là, vous avez rejoint d'ailleurs la préoccupation de Maurice qui parlait tout à l'heure de la communauté internationale qui a qualifié d'ailleurs M23 de force négative. Et la même communauté internationale impose aujourd'hui une négociation par rapport à Maurice. Donc, il trouve que c'est vraiment, il y a ambivalence dans les propos de la communauté internationale. Alors, le sommet conjoint de la SADC, je crois que notre invité pourrait revenir d'ailleurs sur ça. La SADC, c'est Yergel, il y a eu des promesses qui ont été faites. Bon, on va vérifier parce que nous, on n'a pas peut-être toutes les informations. Et vous, vous vous inquiétez aussi de la responsabilité pénale ou morale de certains membres de ce mouvement. Alors donc, il faudrait que tous soient mis dans le même sac parce qu'ils ont chacun une certaine responsabilité, que ce soit pénale ou morale, de fait d'avoir participé à cette rébellion. Et Panzola, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour la Radio Capi et bonjour tous les auditeurs de la Radio Capi et notre invité.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Oui, merci. J'ai des questions. Alors, avant d'arriver dans mes deux questions, je voulais d'abord donner mes points de vue, si vous voulez.
Oui, allez-y.
Oui, je salue d'abord le corps armé congolais et le président de la République pour son promesse de la paix à l'est du pays. Il a accompli ça. D'abord, je voulais dire, le M23, c'est un groupe rebelle, violent et anti-humanitaire. Pour moi, je dis, pas d'accord, ni d'accord des documents avec les M23. Alors, je voulais poser mes deux questions à notre invité. Si les M23 déclarent un accord aujourd'hui, est-ce qu'on signe un accord avec les rebelles, les troupes rebelles qui sont, donc, disons que qui sont vêtues par l'armée congolaise et chassées par l'armée congolaise. Alors, je ne comprends pas. Et c'est aussi accord avec un inconnu. Qu'on ne connaît même pas le pays, il est venu. On dit, il est rwandais, il est quoi? Depuis là, on n'a pas la source des M23.
Merci beaucoup, Epanzola, oui. D'avoir appelé de Kinshasa. C'est vrai, vous avez qualifié donc M23 d'un groupe anti-humanitaire. Hein? Je crois que c'est à votre niveau. Vous ne trouvez pas d'importance encore que le gouvernement puisse se mettre autour de cette table pour négocier, parce que selon vous, ce groupe a été déjà vaincu et on ne peut plus parler des accords. Martin, vous êtes à Lubumbashi, on va terminer cette deuxième série avec vous. Martin, bonjour.
Bonjour, JR. Je salue tous les auditeurs de la radio Capi ainsi que notre invité du jour. D'entrée de jeu, moi, je voulais intervenir en ceci. La communauté internationale ainsi que les gouvernements congolais, tous ont qualifié les M23 comme étant une force négative. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouvernement doit toujours signer un accord avec le M23, qui est qualifié comme étant une force négative, c'est-à-dire les Rwandais ainsi que les Ougandais. Ce que nous voulons pour cet accord, c'est que il ne faut pas que le gouvernement puisse signer ce que le gouvernement veut appeler déclaration ni accord, ce que le M23 veut. Ce que nous voulons, il est grand temps à ce que le gouvernement, avant de s'engager, qu'il puisse concerter toute la communauté, toute la société congolaise ainsi que toutes les autres institutions, parce que ce que le gouvernement veut faire, c'est une façon d'engager la République. Nous savons que les individus passent, mais la République va continuer à vivre. Nous ne voulons pas cette fois-ci encore venir dans les mêmes problèmes de 2023, le peuple en est mal avec les histoires de la guerre.
Merci beaucoup, Martin, d'avoir appelé de Lubumbashi 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Dominique Vert, vous avez suivi les uns et les autres, voilà, commençant par Dadi et Panzola et ainsi que Martin. En fait, Dadi a évoqué les responsabilités des uns et des autres dans cette rébellion, et puis Panzola qui a aussi parlé de l'aspect humanitaire. Hein. Donc, pour dire que tous, ils ne sont pas favorables à l'intitulé accord de paix, et ils préfèrent que tous nous puissions nous rallier derrière la position du gouvernement, qui veut qu'on puisse constater la fin de la guerre et proposer une déclaration.
Oui, je pense que c'est en tout cas le constat qu'on peut faire de l'ensemble de vos auditeurs. Il y a ici aussi, comme on le remarque ailleurs dans la société congolaise, on le voit encore ici dans cette émission, il y a unanimité de tout le peuple congolais sur le fait qu'il est hors de question de vouloir, de pouvoir, de vouloir encore moins, signer un accord avec le M23. Moi, je pense que la grande contradiction qui a été soulevée est tout à fait juste par vos auditeurs. La grande contradiction qui a été soulevée, c'est celle de cette communauté internationale qui, on a encore entendu Madame Robinson, l'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, une ancienne présidente irlandaise, Madame Robinson, qui a été en plus quand même en même temps commissaire aux droits de l'homme pour l'ONU à Genève, elle disait encore hier, il faut une solution politique avec le M23. Je ne vois vraiment pas comment aujourd'hui, une semaine après la fin de cette guerre et de cette rébellion, puisque la rébellion l'a reconnue elle-même, elle s'est autodissoute, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a encore un dialogue politique à avoir avec les derniers représentants du M23 qui sont retranchés, on ne sait pas très bien où, en Ouganda, au Rwanda, peut-être même plus loin. Et donc, c'est quand même incroyable, puisque c'est cette même communauté internationale qui a qualifié le M23 de force négative. Au côté d'autres, on est bien d'accord, ce n'étaient pas les seuls, ils n'ont pas le monopole des forces négatives, mais c'est quand même une des forces négatives qui était la plus négative, et en tout cas la plus nuisible, et qui était active sur le territoire de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc là, il y a une contradiction terrible où, d'un côté, on les considère comme étant des forces négatives, mais on dit au gouvernement congolais, alors qu'il a vaincu et qu'il a démis le mouvement du 23 septembre, le M23, eh bien, on lui demande quand même de pouvoir continuer le dialogue politique. Moi, je pense, comme le disaient aussi vos auditeurs, que le dialogue politique doit se retrouver au niveau de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je ne pense pas qu'il faut re-signer un nouvel accord ou une nouvelle convention ou un nouveau protocole d'accord entre l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'il faut simplement repartir de l'accord cadre d'Addis Abeba et de vérifier qu'on ait un mécanisme de vérification qui démontre que les engagements qui avaient été mis sur papier et signés par les chefs d'État, où en sont-ils? Comment ont-ils été mis en œuvre? Et de faire le bilan pour voir un peu, en fonction des États signataires, quels sont les États qui ont avancé dans les engagements qu'ils s'étaient promis de mettre en avant dans les mois qui ont suivi la signature de l'accord cadre, et où en est-on 6 mois plus tard, et qui a fait quoi, et qui s'est engagé sur quoi, et où en est-on?
Si aujourd'hui le gouvernement congolais lui-même a reconnu qu'il y a au moins dans cette affaire trois approches, l'approche militaire, l'approche politique et l'approche diplomatique, ce qui veut dire qu'il y a, mis à part le problème qu'on a, le problème des guerres successives qu'on a connu au niveau de l'Est, il y a aussi des aspects politiques qu'on doit attaquer. Raison pour laquelle aujourd'hui les négociations valent quand même ce pesant d'or, et aussi au niveau diplomatique il faut continuer pour que nous ne revenons pas qu'il n'y ait pas de guerre récurrente.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, par rapport à la facilitation, je suis désolé d'être un peu dur, mais j'ai entendu le ministre de la Défense ougandais qui disait dans une interview que les gens du M23 étaient vraiment les bienvenus, et ils ont même été accueillis en héros. Ils sont nourris, blanchis maintenant par la République ougandaise. Je ne vois plus comment l'Ouganda peut, si c'est vrai, et s'ils sont vraiment dans cet état d'esprit où le président et son gouvernement ougandais est dans la volonté de vouloir protéger et accueillir ceux qui ont fui, vu les victoires militaires des FRDC et le territoire congolais, moi je ne vois pas comment ce pays peut encore être celui qui est le médiateur.
Donc là, on peut quand même donner raison
à les forces négatives et le gouvernement congolais.
Est-ce que vous donnez raison, vous, Dominique, particulièrement aux observateurs qui pensent que le problème, ce n'est pas les groupes armés actifs dans l'est du pays, mais c'est plutôt un problème régional, un problème de la sous-région, l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Il faut un dialogue franc entre ces trois pays.
Oui, je pense. Et on peut y ajouter quand même aussi le Burundi, parce que mine de rien, c'est quand même aussi un pays qui est impliqué dans toute cette dynamique-là. Oui, moi je pense qu'il faut évidemment un dialogue franc, il faut peut-être encore un peu de patience, parce que je pense que ce sera pas éternel, mais c'est en tout cas permanent ce genre de dialogue quand on est des voisins et qu'il y a des tensions qui peuvent réapparaître à un moment ou à un autre entre les pays concernés. Je pense qu'il faut un dialogue permanent, que la CIRGL est un très bon lieu pour le faire, que cette conférence doit continuer à exister parce que les enjeux dans la région des Grands Lacs dépassent vraiment les revendications des forces négatives sur le territoire congolais. Il y a vraiment tous les grands enjeux de développement. Vous rappelez que dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, la Banque mondiale était arrivée avec $1 milliard pour développer les pays de la sous-région. $1 milliard. Pour le moment, le milliard de dollars, il est où? Il est coincé à New York parce que c'est la guerre. Mais aujourd'hui, il faut que les pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, reprennent parole, se reparlent sérieusement, franchement, mais aussi dans le cadre du développement de la région, et pas uniquement politiquement dans un dialogue de sourds.
Maître Gaston est à Kinshasa et Lambert toujours dans la même ville. Maître Gaston, bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi.
Merci, à vous aussi, bonjour.
Voilà, vous avez la parole, Maître Gaston.
D'accord, à mon avis, tous ces thèmes-là posent problème, hein, et je vais proposer un autre titre.
Oui.
Qu'on puisse proposer.
Donc vous n'êtes pas favorable pour l'accord, encore moins pour. Ni pour la conclusion, encore moins pour la déclaration. Vous voulez proposer un autre terme?
Oui, oui.
Voilà, je crois que ceux qui sont engagés dans ces pourparlers vous suivent. Oui.
Je vais vous le dire pourquoi.
Oui, allez-y. Vous proposez quoi concrètement?
Je propose une résolution obligatoire et définitive.
Une résolution obligatoire et définitive.
D'accord.
Pour
d'une conclusion en soi, une conclusion peut régler, peut respecter ce qui a été dit, poser encore d'autres problèmes. L'accord, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, voire une déclaration. Donc, on peut signer, on peut s'entendre sur des choses qu'on ne peut pas à la longue exécuter. Moi, je pense que ce qui importe ici, c'est le contenu. Parce que, en ce qui nous concerne ici, que ce soit les titres, ils vont s'entendre sur des choses, sur des obligations et des droits. Alors, en ce qui concerne des obligations, on aurait des obligations que notre État est censé respecter, voire les droits qu'il est censé aussi avoir, mais aussi la partie adverse.
Et vous pensez que dans ce que vous proposez,
vous avez dit que le contenu n'est pas jusque là dévoilé, mais nous avons Dominique Webb qui est là, je pense. Il a dit qu'on peut imaginer. Imaginer, ça veut dire quoi? Je vais vous dire que tout ce que nous dirons sur le contenu, c'est en quelque sorte ce qui sera aussi dit. Parce que jusque-là, vous criez sur la victoire que vous avez sur cette rébellion-là, mais vous devez vous poser la question de savoir, vous avez maté le M23, qui était en quelque sorte comme... une force qui protégeait les deux États qui se constituaient aussi en danger par rapport aux rébellions ou d'autres rebelles, groupes rebelles qui se trouvent sur notre territoire. Donc, nous avons aussi l'obligation de mater ces autres-là. Donc, il y a une suspension. On ne peut pas parler de la fin, mais il y a une suspension. On nous a laissé en paix en retirant leurs troupes, mais nous devons aussi faire un effort afin de mater aussi ces troupes qui constituent un danger, qui se trouvent sur notre territoire. C'est en quelque sorte sont les obligations qu'on peut voir, on va avoir aussi dans le cadre de cet accord ici. Et puis, vous savez que les obligations du M23, ou soit la fin de la guerre, c'est en quelque sorte une décision unilatérale. de l'M23 qui a demandé à ses troupes, de, à mon avis, hein, c'est une, c'est un acte de cesser les faits, et puis un acte de cesser les faits a toujours de condenser par ce que prépare le M23 pour revenir. Et moi, je pense que c'est en quelque sorte quelque chose qu'on a fait pour temporiser le temps. Et nous sommes avec vous. La vie nous accorde l'occasion. On peut
voilà, voilà. Maître Gaston, là vous
revenir.
Voilà, Maître Gaston, vous rejoignez clairement certains auditeurs qui parlaient tout à l'heure et d'autres observateurs qui ont peut-être aussi eu les mêmes inquiétudes, hein, à en croire les premières déclarations de certains officiels ougandais lorsqu'il y a eu reddition de chefs militaires de M23. Ils ont dit que bon, un groupe de militaires est détenu en Ouganda et ce groupe sera disons, extradé ou encore émis au gouvernement congolais juste après la signature de l'accord de paix à Kampala. Donc, ils ont conditionné cela. Donc, ça prouve par rapport à certains observateurs. Ils pensent que déjà, Yangus Roche, on peut déjà comprendre que l'Ouganda est derrière l'imposition de ce contenu de documents. Voilà. Merci beaucoup,
merci,
Maître Gaston.
Pardon, s'il vous plaît.
Voilà, merci, Maître Gaston, parce qu'il y a Lambert qu'on va prendre et Joseph, qui seront peut-être les derniers auditeurs qui vont intervenir. Hein. Merci, Gaston, vous êtes un habitué de cette émission, hein, le fils de la maison. Voilà, donc laissez le temps quand même aux autres aussi de parler. Lambert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Lambert.
Bonjour, merci, le journaliste. Bonjour à notre invité.
Voilà, ben, bonne arrivée. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je suis de même avis avec le premier auditeur là qui a parlé des contenus. Monsieur le journaliste, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes, c'est puisque le pays, le gouvernement avait signé un accord avec le rebelle de la RDC, si, de SCD Goma, comme ça, si je ne me trompe pas. On n'a pas eu une idée sur le contenu de cet accord, et c'est ce qui a dégénéré ce conflit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, monsieur le journaliste? Le gouvernement ne peut pas se taxer de cet orgueil-là, excusez les termes, de dire que non, c'est bien lui qui a dissous le M23. Non. C'est une volonté politique et diplomatique de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, le M23 doit d'abord se retirer du territoire congolais et on va aborder la version politique et diplomatique. Alors, c'est la force d'interposition, la brigade d'intervention, qui a fait que les forces armées congolaises puissent apporter sur le M23. Ça, c'est une volonté, vraiment, nous devons soumettre cet aspect, c'est une volonté politique de la communauté internationale. Maintenant, ce concerne tout sur la version, sur le volet politique, le gouvernement ne peut pas s'hasarder sur la terminologie. Nous avons tellement besoin, d'ailleurs, c'est une urgence, monsieur le journaliste, de savoir les contenus de cet accord-là, sur les 11 points déjà précités. Pourquoi, monsieur le ministre, ne veut pas nous dévoiler que nous voilà les 11 points à l'ordre du jour pour qu'on puisse débattre à partir de l'Assemblée nationale, Sénat, même à la radio Okapi, dans notre émission par aux auditeurs, et à partir on peut ensemble décider et orienter le gouvernement. Lorsque le gouvernement utilise la politique d'Autriche, la terminologie, nous ne sommes pas d'accord avec l'accord ou ceci, mais le contenu qui est d'ailleurs le point essentiel, le gouvernement ne veut pas dévoiler ça aux villes congolaises. C'est ça là où je ne suis pas
d'accord. Merci beaucoup.
Alors, lorsque le gouvernement congolais,
rapidement, Lambert, rapidement.
Que nous ne voulons pas ceci avec le M23, nous ne voulons pas cela. À un moment donné, la même communauté internationale va donner raison à M23. Et le M23 va encore chercher une autre considération.
Bon, je ne pense pas qu'il en sera ainsi, parce que la position de la communauté internationale, Lambert, ça c'est connu, le M23 c'est une force négative, mais la communauté internationale n'exclut pas hein, l'approche aussi politique pour toujours chercher une paix durable dans l'est du pays. Merci beaucoup, Lambert. Alors, Joseph, vous avez 30 secondes, parce qu'avec notre invité, on va conclure aussi en une minute. Joseph, rapidement, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Kabaré, expliquez-vous.
La petite analyse que je voulais faire, c'est le si, mon frère.
Kabaré.
C'est que, oui. Sans trop m'étendre ici la valeur sémantique des termes, je voulais dire tout simplement qu'il n'y a pas d'accord que le gouvernement doit encore signer avec le M23, sinon il n'en finira pas d'en signer avec tout le reste des groupes armés d'ici à l'est du pays, desquels chaque chef de guerre, chaque criminel de guerre voudra être général, voudra être PDG d'une société paradisiaque.
Voilà, merci beaucoup Joseph d'avoir appelé. Nous allons conclure cette émission avec vous, Dominique. C'est vrai que accord, conclusion, déclaration, en un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir dans les jours à venir? Nous l'avons dit, le temps que chacun campe sur sa position, ça peut avoir des conséquences sur la vie politique de notre pays et aussi les conséquences sur le terrain, parce qu'il faut déjà penser au développement de cette partie qui a été sinistrée pendant très 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 longtemps. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir, Dominique?
Mais moi je pense que la première chose, c'est qu'on peut retenir que personne ne veut d'un accord et personne ne veut finalement d'un document qui serait signé par les deux parties, puisque les Congolais reconnaissent que le M23 a été dissous, a disparu, a été vaincu, et que donc il n'existe plus, il n'est plus une entité ni militaire ni politique, et donc on ne voit pas pourquoi il faudrait signer avec des fantômes qui sont encore membres du M23. La deuxième chose, il faut être prudent, et je pense que le dialogue politique doit absolument reprendre, ou en tout cas continuer, et peut-être se renforcer encore entre les pays membres, les pays voisins de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, on le sait bien. Il faut que ce dialogue politique puisse être renforcé afin d'être bien sûr qu'il n'y a pas d'argent à cacher derrière les troupes rebelles ou les quelques troupes rebelles qui ont réussi à rejoindre les territoires, soit rwandais, soit ougandais, que la communauté internationale soit bien attentive au fait que ces gens-là ne font pas se reconstruire et se réarmer pour une nouvelle tentative en changeant de nom de groupe rebelle, mais en étant toujours une force négative qui viendrait de nouveau faire ses exactions sur le territoire congolais. Troisième enseignement peut-être de ces derniers jours, de cette dernière semaine, je pense que on l'a vu au sommet des chefs d'État à Pretoria la semaine passée. Moi je pense qu'en effet, un de vos auditeurs disait, c'est la communauté internationale qui, à partir du moment où elle a déterminé qu'il fallait que le M23 disparaisse, que c'est grâce à la communauté, ou à cause de la communauté internationale, que le M23 a disparu. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'il y a évidemment les FRDC qui ont été remotivés. Il y a bien entendu le
voilà, dommage,
mais il y a
dommage, Dominique. On va revenir. Il y a beaucoup à dire. Les temps fait défaut. On va dire au revoir à nos auditeurs. Merci Dominique d'avoir été des nôtres.
Merci beaucoup
d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. Et je sais que demain vous allez prendre votre avion pour partir.
Vers le
prévu. Merci. Voilà. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci à toute l'équipe de production, Titi Poutou et Nadine Foula. Merci à Nicole Ngaka qui a supervisé ce programme et merci également à tous ceux qui nous ont aidés à l'aboutir. À demain pour un autre numéro.